René Leys. « 30 juin 1911. Il y a plus longtemps que de coutume, 3 jours entiers, je ne l'ai pas revu. Il a compris sans doute que ses leçons de pékinois m'importaient moins que ses leçons de vie pékinoise, qui ne peuvent, sans surmenage, se donner quotidiennement. Ou bien, il mène en dehors de ma maison et de moi son jeu compliqué. J'en ai quelques jalousies. D'abord, il me plaît. Je commence à l'accepter, voire, avec la négligence affectueuse que l'on a, pour celui qui se fait attendre d'une veille au lendemain. Il me faudrait faire effort pour le peindre, si j'avais jamais à le peindre. Et pourtant, il est beau dans l'action, le mouvement libre dans l'air, à cheval, ou chevauchant une histoire au galop, avec moins de volubilité que de domination contenue de l'acte et de ce qu'il dit. Et il est impossible d'oublier le persistant de son regard d'ombre, dilaté brusquement. Comme si je l'attendais, j'ai fait disposer ce soir la grande chaise et mon fauteuil dans ma cour, tiède du chaud soleil de tout ce jour, comme pour des confidences encore. Autour de moi, dans le ciel, du tonnerre. Le tonnerre dans l'arène renversée. Le tonnerre qui, depuis de longs jours, ne se résout pas à fulgurer, mais roule dans le cirque horizontal ses courses de chars, du bruit menant sans crever leur manège. Je l'attends. Que peut-il perpétrer cette nuit? Qu'a-t-il fait de la nuit dernière? Je me surprends à l'épier avec la générosité d'un aîné prêt aux indulgences, efficace bien plus qu'un père. L'épicier, là-bas, dans sa lune de mielasse, peut considérément se reposer sur moi. Oui, monsieur, je veille sur votre fils. Du moins, j'en compte plus jalousement que vous les absences. Je crois le comprendre et l'aimer plus que vous. C'est bien ça. J'aime ce garçon nerveux et décidé. Ce qu'il me dit est parfait d'anecdote et de ton. Ce qu'il fait, ou bien me regarde peu, ou fait partie de ce que j'ai décidé d'aimer le plus au monde. Les gens qui vivent au palais, successeurs, un peu éteints, de celui qui régna et qui mourut au fond du dedans du palais. Lui-même, qui les évoque et les exotérise, fait donc partie de mon plan du palais. Ce raisonnement vient tout droit buter sur ce mur rebondissant. J'aime amicalement ce garçon nerveux et vivace, cet animateur, ce montreur d'ombre. Mon ami, c'était mon ami. De quel ton il a dit cela, sur le propos du mystérieux disparu? Le seul mâle, l'épuisé de plaisir officiel, le maître d'eunuques et de femmes. Et puis, quand il m'a raconté que le frère de son ami, le régent, il entendait le défendre contre tout, le sauver. Pourquoi donc ne serais-je pas son ami? Il n'ose pas. 15 ans d'âge et les distances européennes, il n'ose pas. C'est donc à moi de décider. Quand il reparaîtra chez moi, s'il lui arrive jamais de reparaître, je lui proposerai donc, logiquement, de devenir, s'il le veut bien, mon ami. Je sais d'avance qu'il nourrira ce mot de toutes les vertus que j'y place. Je sais que peu de gens auront jamais, dessous un ciel aussi lourd, échangé de telles confidences. Serait-ce du ciel qu'il me faut espérer la résolution de ceci? Il ne vient pas. La nuit est veuve. À des gouttes qui flaquent sur mes dalles, je sens en vain que toute la nuit se détend et qu'il pleut. Il pleut enfin. Alors, nu sous un vêtement de soie impalpable, de soie chinoise pour l'été, je reçois la grande averse et, rafraîchi, je m'en vais. Enfin, dormir détendu. 16 juillet 1911. Il est à peu près l'heure du dîner que je retarde inconsciemment tous les jours. Le voici qui se fait annoncer et s'excuse avec empressement. J'excuse tout, j'ai tout compris. Il se prépare un nouvel attentat. Après la bombe, quoi ? Le poignard ? Ou bien le... Oh, comme il s'agit peu de cela. J'ai parlé vite. Il achève froidement. Je suis très occupé par mes élèves. Nous sommes en pleine période d'examen. 60 copies à corriger en 2 jours. Je m'incline, désappointé, devant le bon professeur revenu. On mange sans appétit, par ce crépuscule brûlant. Va-t-il, pour conclure, me prendre pour exutoire des amours de son père, pour témoin de sa carrière d'orphelin manquée, répudiant l'auteur ingrat de ses jours? Il m'épargne cette avanie. De nouveau, nous baignons dans le silence tiède de la nuit, et sa voix changée prend le timbre de fer d'une certaine cloche que je sais, rouvre une certaine porte que j'ai déjà franchie grâce à lui. Il dit, comme en écho de mes paroles, « Après la bombe, le poignard, vous ne pouviez croire si bien dire. C'est arrivé voici 2 jours. C'est la véritable raison de mon absence. J'ai juré de ne pas en parler. » Il attend l'effet sur moi de ces mots. Moi, j'attends simplement la suite de ces mots. Sauf à des amis sûrs et qui m'aideraient au besoin. Un ami sûr. J'exprimais déjà la décision d'être un ami pour lui, et je suis sûr de moi, par principe, ou la vie serait impossible. Quant à l'aider au besoin, pourquoi pas? Il semble que mon silence lui suffise comme un aveu discret d'enrôlement. Maintenant, je puis vous le dire. Il y a longtemps qu'il préparait ça. Je n'eus la certitude que 20 heures avant. Ouf, enfin, c'est passé. Et il soupire, s'arrête, reprend, parle parfois très bas. Quel minutieux et logique récit. C'est vraiment d'une belle maîtrise policière. La jeune vierge de Tianmenwai, persistante à se refuser toujours, par ordre, au deuxième fils du prince Tsi, cet amant en expectative d'emploi multipliait les promesses. Lingots d'argent fin, perles mortes, corail faux, nécessaire à toilette européen en métal anglo-exportation, enfin, voiture franco-pékinoise à 4 roues et à ressort, tout attelé, signé du carrossier Maquignon bien connu. Rien n'y faisait. Tout à coup, l'amoureux s'est décidé. Il offrait à sa pure et belle paracubine de devenir, en se donnant à lui, non pas concubine de 10e rang, non pas de 5e, non pas de 2e, pas même de 1er, mais princesse, mais bien mieux que princesse, de devenir impératrice, criai-je moi-même comme un hurrah. Je m'interromps. Mais il existe une impératrice. Falotte, il est vrai. Longyu. René Leys continue et convient qu'il s'en est fallu de bien peu. Sans doute devait-on, tout d'abord, se débarrasser du régent. On avait trouvé l'homme pour cela. Et pour gagner une nuit sur les bénéfices de l'affaire, le prince annonçait à sa belle, avant-hier, que le régent serait mort avant son entrée au palais pour le grand conseil, au matin du 20e jour de la 6e lune. Donc, hier matin? Exactement. Le reste s'enchaînait de lui-même. prévenu dans le restaurant de l'Arc de Triomphe de l'Est, par l'envoi d'un certain mouchoir de soie rose, René Leys faisait donner aussitôt ses meilleurs policiers. Pas un n'avait découvert la moindre trace irrégulière dans l'escorte de la garde désignée ce jour-là. Pas le moindre indice dans les rues, pas le moindre fil, même électrique, sous les ponts. Cependant, au moment où le régent, descendu de voiture, passait à pied la voûte du Tsiming Kong, on a remarqué, à deux pas derrière lui, parmi les gardes de la porte, qui a remarqué ? René Leys ne s'arrête pas. On a remarqué un individu qui ne s'inclinait pas avec le geste d'un officier bien appris. On s'est précipité sur lui, on a fouillé ses manches et on l'a désarmé, car il portait un couteau de cuisine et mis en prison au secret. Et le régent, quelle attitude ? Car il est toujours agréable de recueillir ce qui est dit face au danger. Oh, le régent n'avait rien vu. Il va toujours les yeux baissés, ce qui est la démarche de cérémonie. Il a bien fallu lui rendre compte. Je serais curieux d'avoir été celui-là qui lui annonça la chose, le danger, ou encore celui qui, le premier, soupçonna l'homme au couteau et se jeta sur lui. Qui était-ce ? Le chef d'escorte ? Suivrait-il le régent jusque dans le palais ? Si c'est lui, je donnerai beaucoup pour avoir son récit, quand il sera bien ivre. René Leys reste songeur un moment plus long que de coutume. Vais-je ignorer ? Enfin, de sa bonne voix confidentielle, « Oh, je n'ai aucun mérite. Il me suffisait d'être prévenu à temps. L'homme était reconnaissable à ce fait que son couteau dans la manche le gênait pour s'incliner. En lui prenant le poignet au passage, comme pour l'avertir, j'ai senti qu'il cachait une arme. Quant à raconter la chose au régent, oh, personne ne voulait s'en charger. Il a bien fallu que j'y aille. » C'est donc lui, c'est vraiment lui. Mais le régent, quand il m'a vu, en dehors de l'heure habituelle, il s'est douté. Il est devenu vert. J'ai dit, ça n'a aucune importance, c'est fini. Il m'a regardé. Je crois qu'il n'osait pas demander ce qui était fini. Il a compris que j'étais intervenu et m'a serré la main. Comment ? Le régent vous remerciait comme aurait fait Sadi Carnot ? Il s'est donc donné une poignée de main ? Ah, je veux dire qu'il m'a serré le pouce, rectifie René Leys. Je lui avais appris pourtant à donner une poignée de main, mais il oublie toujours quatre doigts. C'est bien ça. Je sais ce qu'il me plaisait de savoir. Je tiens la main du régent dans la mienne, ou plutôt hors de la mienne. J'ai la face du régent devant moi. Cet homme, gonflé d'importance imposée et officielle, moi je n'ai rien à savoir de plus. J'ai vécu vraiment un instant de la vie la plus intime du palais. Oh, ce René Leys, quel merveilleux metteur en scène ! Mieux, quel homme de théâtre ! Quel acteur ! Ce qu'il a joué n'est pas loin du dénouement le plus brave. Non pas au moment où il s'accrochait à l'homme armé du couteau, mais ses dangers avant l'attente et la vengeance, après l'attentat même avorté. Je voudrais, comme un bon juge, tirer immédiatement tout au clair. Qu'est-ce qu'on a fait de l'homme au couteau ? En prison, dans le palais, personne ne s'en doute. Qui est-ce ? Un officier mécontent ? Un fidèle du prince ? Un prince ? Non. Un cuisinier auquel on avait fait des observations ? Oh, comment savez-vous ? Il a tout avoué ? Il n'a rien avoué. Il est payé pour ne rien dire. Il ne dit rien. Et la question ? Enfin, comment savez-vous son origine ? Par son couteau. Je vous l'ai dit, c'est un couteau de cuisine dont il avait l'habitude de se servir. Nous touchons à l'évidence même, à la logique éclatante de l'évidence. Rien ne remplacerait la certitude que voici l'attentat, dénoncé 20 heures à l'avance par la belle policière et vierge maîtresse, la promesse de son futur amant, instigateur de l'attentat. Celui-ci, second fils d'un prince fort bien en cour, est difficilement accusable. Nul doute qu'il n'ait obéi à des motifs d'un ordre très éminemment supérieur. De quel ordre? Quels furent ces motifs? René Leys ne répond pas. Je persiste. Notez bien, si je vous parais indiscret, c'est que je songe à l'avenir. Vous venez de sauver la vie du régent. Vous avez donc gravement déplu à ceux qui prétendaient la lui faire perdre. Vous ne craignez rien pour vous? Ma question semble impliquer René Leys en une subite torture. N'y aurait-il point songé? Oh, quel enfant! Décidément, il faut penser pour lui. Il faut veiller sur lui. Surtout, il faut prévoir. La police du régent vous couvre-t-elle complètement? Non, puisqu'on s'en prend à lui-même. Alors, d'où viennent ces histoires? Je vous l'ai déjà dit, du dedans. Mais je tiens le moyen d'y pénétrer. Enfin, je vous l'ai montré au théâtre. Vous avez vu, dans la loge du régisseur, à droite de la scène, cette femme mandchoue. Oh, il y en avait beaucoup au théâtre. Cette femme était un homme, un acteur. Eh bien, je m'étonne que mon grand policier se laisse prendre à une femme. Depuis que des touristes, des missionnaires et des académiciens parcourent la Chine, le moindre journaliste n'ignore pas que les rôles de femmes, en Chine, au théâtre et parfois ailleurs, sont fort bien tenus par des hommes plus fins, plus minces, plus élégants. Mais il explique, ce qui est remarquable en cet acteur, c'est d'avoir, lui, le premier, sous la dynastie Mandchou, obtenu de jouer en costume contemporain, en costume de femme Mandchou. Comment a-t-il obtenu? René Leys prend un temps. En jouant le même rôle au palais. Et de toute la nuit, je ne puis en tirer un mot de plus. Lui aussi, on dirait qu'il joue un rôle, et que son rôle est fini.